Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour commandant.
Bonjour.
Alors vous êtes chef de bataillon dans l'armée de terre et plus particulièrement vous êtes chasseur alpin et donc vous nous racontez l'histoire d'un chasseur alpin, à savoir vous, déployé en Afghanistan, dans les montagnes d'Afghanistan. Donc si je comprends bien, c'était une opération commando. Vous étiez à l'époque dans un... C'était quoi, le 13e commando?
C'était le 13e bataillon de chasseurs alpins auquel j'appartenais, et à cette époque, je commandais le groupe commando montagne.
Donc c'était en 2010, c'est ça?
C'était en 2010, oui. Donc là, je vous propose un petit retour en mars 2010. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et on est dans une politique de contre-insurrection menée par les forces de la coalition qui étaient présentes en Afghanistan. Et avec mon commando, on reçoit la mission de participer à une mission américaine de forces spéciales, qui est une mission classique à l'époque. On se rend en gros dans un village où sont présents des chefs insurgés, et l'idée est de les arrêter. Voilà.
Donc vous partez comment? Vous partez en hélicoptère?
Alors,
vous y allez pas à pied.
Oui, bien sûr. Ouais. On aurait pu y aller à pied, mais c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup plus simple d'y aller en hélicoptère. Et surtout, en fait, on est parti à l'isolement quelques jours au préalable sur la grosse base américaine de Bagram. C'est une base qu'il faut un peu voir comme... C'est un peu Orly au Roissy de l'Afghanistan. C'est gigantesque. Il y a plein d'avions et des hélicoptères. Et donc là, on s'entraîne et on se met au secret avec l'unité américaine pour préparer la mission.
Et ça se passe comment d'ailleurs quand vous arrivez, quand vous débarquez au milieu d'une ville américaine en plein Afghanistan? J'imagine que c'est une ville qui vit...
C'est une ville, vous avez tout. Vous avez votre McDonald's, vous avez le concessionnaire Harley-Davidson pour faire un peu dans l'exotique. Vous avez des universités américaines qui recrutent les soldats américains et qui, à la fin de leur contrat avec l'armée, pourront reprendre des études. Donc c'est vraiment... C'est global, vous avez des supermarchés. Donc quand on arrive...
Et vous, on vous met dans le coin des Français?
Non, alors non, justement, on n'était pas dans le coin des Français, puisqu'on était, on avait une sécurité de l'opération qui était assez poussée. Donc on était dans le camp des forces spéciales américaines, et on était dans une petite partie dédiée, puisqu'avec nous, on avait des...
C'est-à-dire, ils font un quartier à l'intérieur de la ville qui est secret par rapport au reste de la ville.
Voilà, il faut voir ça comme une immense ceinture dans laquelle vous avez d'autres petites entités qui communiquent plus ou moins ouvertement avec les autres. Et nous, on est dans un petit camp qui communiquait un peu moins avec le reste, puisque c'était le camp des forces spéciales, donc naturellement, elles sont un peu plus enclines à se protéger et à éviter que des étrangers, que des personnes extérieures viennent.
Et ça se passe bien quand vous rencontrez des Américains comme ça? Enfin, je veux dire, vous faites un peu le même métier, mais en même temps, vous faites pas le même métier. Puis c'est très documenté aussi que les Américains parfois peuvent avoir, peuvent avoir une attitude, disons, variable à l'égard des personnes à l'étranger.
Alors l'avantage avec les Américains, c'est qu'ils sont assez prévisibles, ouais, si on peut dire ça. C'est que quand ils ont besoin de vous et qu'ils ont besoin de vos capacités et de ce que vous savez faire, vous êtes à 100% avec eux. Le jour où ils n'ont pas besoin de vous et qu'ils vous font comprendre, vous êtes à 100% hors de la manœuvre qu'ils sont en train de monter. Donc là, on avait la chance, ils avaient besoin de nous.
Parce qu'ils n'avaient pas de chasseurs alpins, quoi.
En fait, on était basé sur la même base dans une province montagneuse plus à l'est. Et ils avaient confiance en nous. On avait déjà combattu ensemble sur des missions qui étaient des missions françaises auxquelles eux participaient. Et donc là, en fait, pour une mission américaine, ils ont demandé à ce que nous, les commandos montagne qui étions sur cette base, les accompagnions sur cette mission.
Ok. Et donc, vous vous entraînez ensemble, etc.
Voilà, donc on s'était rencontrés sur la base française, puisqu'ils partageaient notre base française dans les montagnes. Et puis, ils ont demandé, l'état-major français a dit oui, pour qu'on puisse partir sur cette mission américaine. Et donc on est parti ensemble sur ce grand aéroport, cette grande base américaine pour se préparer à cette opération.
Et donc c'est quoi, vous êtes tous, donc vous êtes sur la base américaine, vous vous entraînez, j'imagine que vous répétez voilà, l'opération
en fait,
plein de
fois. Répète l'idée, on ne sait pas en fait où on va intervenir, on sait que ça va être dans une vallée, l'idée c'est que le renseignement et les drones traquent le chef militaire de la vallée par ses moyens de téléphone portable et par des images aériennes. Et que le jour, en fait, on a un créneau de 3 nuits où on pourra jouer. Et que si au cours de ces 3 nuits, la position dans laquelle il s'arrête pour dormir est favorable, eh bien, on ira. Mais effectivement, il est impossible de dire à l'avance si c'est dans tel village. Donc la configuration du village a une réelle importance sur l'opération. Bien évident que s'il s'arrête au cœur d'un village qui est impossible d'isoler, c'est impossible d'aller au milieu du guépier. On sait qu'on va peut-être y rentrer, mais on n'en ressortira jamais. Et c'est quand même, à la base, c'était pas le but.
Donc un jour, vous recevez le signe. Donc vous
voilà,
entraînez,
donc, on a une première nuit où à 1h du matin, bon, il faut comprendre qu'un groupe taliban, ça se déplace tout le temps. Et qu'en fonction des endroits où ils sont, ils s'arrêtent pour la nuit pendant quelques heures. Ils ont une vraie vie d'asset, hein, ces gens-là. Et donc là, la première nuit, ils sont arrêtés dans un endroit qui n'était pas du tout favorable à l'action, donc on n'y est pas allé. Et la deuxième nuit, donc on les suit, il faut imaginer qu'on est dans un grand centre avec des télés sur les murs, je sais pas, vous avez 20-30 mètres carrés de télé gigantesque, et on suit en fait avec le drone le groupe qui se déplace, et là il est 22h, et on voit qu'il se rapproche d'un village, et ça pourrait vraiment bien coller avec le procédé d'exécution qu'on a choisi. Et donc là il s'arrête dans une maison, il est à peu près minuit, et donc là
c'est vous qui prenez la décision?
Non, nous les Américains étaient leaders sur l'opération, donc c'est les Américains qui prenaient la décision. Nous on était vraiment là au sein de la mission, on n'avait pas de mission de commandement en fait. Moi je commandais mon unité qui faisait partie de cette mission là, mais la mission en elle-même était dirigée par les Américains.
Donc les Américains vous disent c'est
les
bon?
Les Américains nous disent ok, c'est bon, nous ça nous convient, notre commandement c'est bon pour lui, donc on a le vert, on y va.
Et donc quoi,
donc
vous
là
sautez
en gros,
dans un hélico?
Il est minuit, 1h du matin. Donc là, toute l'équipe est prête au pied des hélicos et le temps de se préparer, de retravailler la carte à 3h du matin d'école.
Ok, et ça dure longtemps le vol?
Alors le vol il dure une demi-heure, mais c'est surtout la sensation en fait qu'on a au-delà de la mission, c'est ce qu'on en retient, derrière. C'est la sensation en fait de quitter une base sur laquelle vous avez un McDonald's, enfin vous avez une vie occidentale sur une base au plein milieu de l'Afghanistan. Et puis vous partez dans une vallée que vous connaissez très bien, parce que vous l'avez déjà parcourue avec votre bataillon, votre unité française. Mais vous êtes dans une partie qui est complètement isolée, qui est habituellement tenue par les talibans, qu'il est difficile d'accéder, à laquelle il est difficile d'accéder par le sol. Et donc là, vous allez en gros débarquer, poser le pied un peu en terrain inconnu, tout simplement. Et vous êtes, on était, je crois, 8 dans l'hélicoptère. Alors on se connaît tous, les 8, bien sûr. On s'apprécie et... on a confiance en nous, mais on sait qu'il est potentiellement, il y a peut-être un des 8, 2 des 8 qui pourrait revenir de manière, soit tué au combat, soit blessé. Donc il y a à la fois de la confiance en nous, mais on sait qu'on quitte quelque chose et qu'on n'est pas sûr de retrouver.
Ouais, alors ça je comprends très bien le moment dans l'hélico, mais la question c'est quand vous posez le pied à terre, est-ce que c'est encore là ou est-ce qu'il y a c'est le moment où l'entraînement reprend le dessus, où ça devient, où vous déconnez, vous débranchez pas, vous
ouais,
débranchez
donc,
le cerveau
là, mais... Effectivement, vous avez raison, là ce que je vous parle c'est le moment où on décolle en fait. On sait qu'on va survoler la base et que les montagnes qu'on va survoler après sont pas tenues par les talibans. Donc bon là on est encore dans le... ça dure quelques minutes. Et puis ensuite on sait qu'on arrive, l'hélicoptère commence à plonger vers le sol, il vole de manière assez basse et assez... c'est comment dire
sportive,
on peut dire ça. Et donc là on va, sans se parler de toute façon, chacun se remet dans le match, et puis ça passe que par les regards, parce qu'on est de nuit dans l'hélicoptère, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et donc là on sait très bien que là on arrive sur zone et que il est, voilà, naturellement en fait on est dans le match quoi. Et quand on sort on n'est plus du tout dans l'état d'esprit du moment où on est rentré dans l'hélico. Quand on sort on sait que on sait ce qu'on fait, on est très rationnel dans notre manière de faire.
Et ça s'est bien passé?
L'opération en elle-même s'est bien passée, puisqu'à 6 heures du matin, on a quitté la zone par le même moyen, par hélicoptère. On a bien le groupe taliban avec les chefs, qui étaient des chefs assez importants, étaient bien au bon endroit. L'opération s'est déroulée correctement. Les buts tactiques en fait ont été atteints. On a un Américain qui était blessé et qui justement était dans un hélicoptère qui était en train de venir renforcer ma position en fait, puisqu'on nous on a eu affaire à des talibans qui soit cherchaient à nous attaquer parce qu'ils avaient décelé notre dispositif, soit cherchaient à s'enfuir.
C'est-à-dire vous étiez en soutien de, voilà, en fait, de, y avait, des Américains qui prenaient le baraquement.
Voilà, les Américains étaient menaient l'assaut principal sur la maison et sur le hameau. Et nous, en fait, on était sur les, on était, mon groupe était réparti en deux positions qui étaient en embuscade en fait sur les approches de ce hameau. Et le but était de ne laisser personne rentrer pour renforcer les talibans ou de ne laisser personne sortir.
Et vous avez eu des gens qui cherchaient à entrer ou sortir ?
Ouais. On a eu des gens qui ont cherché à sortir. Donc, ce qui est bien, c'est quand vous faites une mission avec des moyens américains et que vous avez de gros moyens américains, c'est que vous avez par exemple deux AC-130 gunships au-dessus de la tête. Donc, ce sont des avions de transport armés, donc avec des mitrailleuses, des canons, un canon.
Et pour barrer la route.
Voilà, donc ce qui est quand même assez, ce qui est quand même assez pratique. On avait aussi des drones qui nous renseignaient en permanence sur ce qui se passait autour de nous, parce que on était en fait dans des diguettes. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir en Indochine, en fait des petites digues, des champs inondables dans lesquels pousse le blé. Et à ce moment-là, fin mars en Afghanistan, toute la végétation reverdit dans le fond de vallée. Et en gros, le blé fait à peu près entre 20 et 40 cm de haut. Et quand vous avez des gens qui s'approchent votre position en rampant dans les blés, bah vous ne les voyez pas quand vous êtes au ras du sol. Par contre, quand vous avez un avion qui vous désigne l'endroit où une personne est en train de s'approcher de votre position pour vous prendre à revers, c'est plus pratique.
Ouais, mais alors, et justement, puisque vous décriviez tout à l'heure le fait que avant de partir en opération, vous les voyez, enfin, vous regardez tout ça sur drone, est-ce que ça change votre appréhension, votre sentiment de l'ennemi, enfin, en tout cas des objectifs, des cibles, quoi? Le fait de, enfin, je sais pas, vous passez des heures avec eux quand même. C'est-à-dire, alors, c'est pas comme si vous débarquiez et vous aviez jamais rencontré, etc. Vous les avez passé quand même un peu de temps avec eux, même si vous étiez pas au même endroit, quoi.
Ouais, En fait, on était déjà là aussi là-bas depuis fin novembre, et il y avait déjà une sorte de, c'est pas une connaissance mutuelle, on va dire, mais on savait à qui on avait affaire. On avait déjà suivi aussi par drone des groupes talibans contre qui on a combattu. Ouais, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Les chefs étaient connus. C'est un peu comme si, c'est un peu le ouzou du taliban dans cette province-là, quoi. Vous savez qui est qui fait quoi. Maintenant, effectivement, quand on les voit, ce sont des, voilà, vous les voyez depuis le ciel, vous les voyez marcher, vous les voyez s'arrêter, vous voyez leur tactique, leur manière de procéder. C'est des gens qui savent faire la guerre, oui.
Ouais, et dernière question, le fait d'être dans les, on sait que les troupes de montagne françaises ont été beaucoup utilisées en Afghanistan. Comment dire? Ça fait évidemment partie de vos compétences, mais en même temps, vous vous entraînez aussi pour des milieux très différents des montagnes de l'Afghanistan, quand vous vous entraînez en France, etc. etc. Question très large, mais disons, comment ça marche bien, les troupes de montagne, votre entraînement et vos savoir-faire par rapport à l'Afghanistan ?
Je pense que ça a bien marché pour l'Afghanistan, pas que pour l'Afghanistan, puisqu'en fait, l'Afghanistan, c'était effectivement un terrain d'engagement qui était assez naturel pour les troupes de montagne, dès le début de l'engagement français en Afghanistan, au début des années 2000, après 2001, les troupes de montagne y sont allées très régulièrement. Le groupe commando montagne a été engagé en permanence en Afghanistan, et ce qui est assez unique, je crois, de 2004 jusqu'à 2012. Donc il y a toujours eu un membre ou des membres du commando montagne présents pendant
quasi...
Dans
le commando montagne ?
Le commando montagne, c'est à peu près 200 personnes au sein de la brigade. Et donc effectivement, l'Afghanistan était un terrain de jeu montagneux avec des hivers rudes. Bon, ça, c'était parfait pour nous, y a pas de problème. Mais je pense que avant tout, la montagne, c'est aussi un terrain d'entraînement parfait pour aborder d'autres milieux qui seront tout aussi rudes, tout aussi abrasifs. Aujourd'hui, on est engagé au Mali. Et je pense que les troupes de montagne, elles vont au Mali en plein été. Il fait très chaud. Et bon, alors effectivement, on prend pas les skis, on prend pas les tenues blanches. Mais le fait de connaître, de savoir ce qu'est un milieu rude, le fait de prendre en compte en permanence, que ce soit la météo, le terrain, ce sont des réflexes en fait qu'on acquiert très jeune dans les troupes de montagne et qui sont à mon avis utiles dans tout un tas de milieux. Vous avez cet été, vous avez aussi des gens qui étaient engagés en Guyane, dans la jungle. Donc vous voyez, certes, notre entraînement nous prédispose plutôt pour les parties montagne et la partie et des combats qui se pourraient se passer dans le milieu polaire. Mais le fait de s'entraîner à ces conditions climatiques très difficiles, ces milieux abrasifs, nous prédispose à aller combattre dans les autres milieux tels que le désert, la jungle ou le combat urbain, tout simplement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.